Chapitre 19. Déjà, maître Folga était à l'œuvre. Confiance en sa cause, conviction de l'innocence de Jacques, attrait de l'inconnu, fièvre de la lutte, incertitude du résultat, convoitise du succès, affection, intérêt, passion, tout se réunissait pour exalter le génie du jeune avocat et fouetter son activité. Et au-dessus de tout encore, planait, mystérieuse et indéfinissable, le sentiment que lui inspirait Mademoiselle de Chandoré. Car il avait subi le charme comme tous les autres. Ce n'était pas de l'amour, car dire amour, c'est dire espérance, et il savait bien que toute et à tout jamais, Mademoiselle Denise appartenait à Jacques. C'était un sentiment puissant et doux qui lui faisait souhaiter se dévouer pour elle et désirer d'être pour quelque chose dans sa vie et dans son bonheur. C'est pour elle que, sacrifiant toutes ses affaires et oubliant ses clients, il était resté à Sauveterre. C'est pour elle surtout qu'il voulait sauver Jacques de Boiscoran. À peine arrivé à la gare, il avait laissé la marquise de Boiscoran à la garde du vieil Antoine et, sautant dans une voiture, il s'était fait conduire chez lui. La veille, il avait adressé une dépêche, son domestique l'attendait. En moins de rien, il eut changé de vêtements. Remontant aussitôt en voiture, il partit à la recherche de l'homme le plus apte, selon lui, à éclaircir cette ténébreuse intrigue. C'était un certain Goudin qui avait, à la préfecture de police, des fonctions assez mal définies, mais assez bien rétribuées pour lui donner l'aisance. C'était un de ces agents à tout faire que la police réserve pour les opérations délicates et les expéditions scabreuses, où il faut à la fois du flair et du tact, une intrépidité à toute épreuve et un imperturbable sang-froid. Maître Folga avait eu occasion de le connaître et de l'apprécier lors de l'affaire de la Société d'escompte mutuelle. Lancé sur les traces du gérant, qui s'était enfui en laissant un déficit de plusieurs millions, Goudard l'avait rejoint et arrêté au Canada après 3 mois de courses effrénées à travers l'Amérique. Mais le jour de son arrestation, ce gérant n'avait sur lui, dans son portefeuille et dans ses malles, que 43 000 francs. Qu'étaient devenus les millions? Lorsqu'on l'interrogea, il répondit qu'il s'était dissipé, qu'il avait joué à la bourse, qu'il avait été malheureux. Tout le monde le crut, sauf Goudard. Surexcité par l'appât d'une récompense magnifique, il se remit en campagne et réussit en moins de 6 semaines à retrouver 1 600 000 francs qui avaient été déposés à Londres chez une femme de mœurs équivoques. L'histoire elle-même est bien connue. Ce qu'on ignore, c'est que le génie d'investigation, la fertilité de ressources et d'expédients qu'avait dû déployer Goudard pour obtenir un tel résultat. Or, maître Folga le savait exactement, lui qui avait été le conseil et l'avocat des actionnaires de la Société d'escompte mutuelle. Et il s'était bien juré que si jamais une occasion se présentait, c'est à cet habile homme qu'il aurait recours. Goudard, qui était marié et père de famille, demeurait au Diable, route de Versailles, tout près des fortifications. Il occupait seul, avec les siens, une petite maison dont il était, ma foi, propriétaire, véritable retraite du sage, avec un jardinier sur la route et, de l'autre côté, un vaste jardin où il cultivait des plantes et des fruits admirables et où il élevait toutes sortes d'animaux. Car c'est un fait à remarquer que tous ces hommes de police qui remuent à la journée le fumier social adorent la campagne et, dégoûtés sans doute des hommes, aiment de passion les bêtes et les fleurs. Lorsque maître Folga descendit de voiture devant cette plaisante habitation, une jeune femme de 25 ans, éblouissante de beauté, de jeunesse et de fraîcheur, jouait dans le jardinet avec une petite fille de 3 à 4 ans, toute blonde et toute rose. « Monsieur Goudard, madame, » demanda maître Folga après l'avoir saluée. La jeune femme rougit légèrement et, modeste mais non embarrassée, « Mon mari, monsieur, répondit-elle d'une voix admirablement timbrée, est dans le jardin, et vous le trouverez en prenant cette allée qui tourne à la maison. » Ayant suivi l'indication, le jeune avocat ne tarda pas à apercevoir son homme. La tête couverte d'un vieux chapeau de paille, en pantoufles et en bras de chemise, ayant devant lui un tablier bleu à pièces et à poches, comme en portent les jardiniers, Goudard était grimpé sur une échelle et s'appliquait à loger dans des sacs de crin les superbes chasselas de ses treilles. Entendant le sable crisser sous ses pas, il tourna la tête et, tout de suite, « Tiens, fit-il, maître Folga chez moi. Bonjour, maître. » Grande fut la surprise du jeune avocat de se voir ainsi reconnu du premier coup d'œil. Il ne certes pas, lui, reconnu ainsi le policier. Plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'il ne s'était vu. Et combien de temps s'était-il vu? Pas une heure en 2 fois. Il est vrai que Goudard était un de ces hommes dont on ne garde pas souvenir. De taille moyenne, il n'était ni gras ni maigre, ni brun ni blond, ni jeune ni vieux. Un employé au passeport eût certainement écrit ainsi son signalement « Front ordinaire, nez ordinaire, bouche ordinaire, yeux de couleur indécise, absence de signes particuliers. » On ne pouvait pas dire qu'il eût l'air niais, mais il n'avait pas l'air intelligent. En lui, tout était ordinaire, moyen et indécis. Pas un trait saillant. Il devait fatalement passer inaperçu et être oublié aussitôt passé. « Vous me voyez en train de préparer ma récolte pour l'hiver, » dit-il à maître Folga. « Agréable besogne. Cependant, je suis à vous. Encore ces 3 grappes dans ces 3 sacs et je descends. » Ce fut l'affaire d'un instant et dès qu'il fut à terre, « Eh bien, » interrogea-t-il, « que dites-vous de mon jardin ?» Et tout de suite, il voulut faire visiter son domaine et avec les extases d'un propriétaire, il vantait la saveur de ses poires duchesses. Il exaltait les couleurs éclatantes de ses dahlias, il célébrait l'aménagement de sa basse-cour où se voyaient des cabanes pour les lapins et un bassin pour les canards de toutes les couleurs et des espèces les plus variées. Du fond du cœur, maître Folga maudissait ses enthousiasmes. Que de temps perdu! Mais quand on attend un service d'un homme, c'est bien le moins qu'on flatte sa manie. Aussi renchérissait-il sur tous les éloges. Et toujours dans le but de se concilier les bonnes grâces du policier, tirant un étui à cigare et le lui présentant tout ouvert, « Vous en offrirai-je un ? » fit-il. « Merci, je ne fume jamais, » répondit Goudard. Et voyant l'étonnement de l'avocat, « Jamais chez moi, du moins, » ajouta-t-il. « J'ai cru remarquer que l'odeur du tabac déplaît à ma femme. » Positivement, si maître Folga n'eût pas connu l'homme, il eût pris pour quelque bon et simple rentier, inoffensif et rien moins que subtil, et lui tirant sa révérence, il se fut retiré. Mais il l'avait vu à l'œuvre, et à sa suite, il visita et admira encore une serre bien établie, la couche des melons et la force des asperges. Jusqu'à ce qu'enfin, conduisant son hôte au fond du jardin, sous une tonnelle où se trouvaient une table et des sièges rustiques, « Maintenant, dit Goudard, asseyons-nous, maître, et dites-moi votre affaire, car ce n'est pas pour l'unique plaisir de visiter mon domaine que vous êtes venu. » Goudard était de ces hommes qui ont reçu en leur vie plus de confidences que 10 confesseurs, 10 avoués et 10 médecins ensemble. On pouvait tout lui dire. Sans l'ombre d'une hésitation et tout d'un trait, maître Folga lui dit l'histoire de Jacques et de madame de Claudieuse. Il écouta sans un mot, sans un geste, sans qu'un des muscles de son visage tressaillît. Et quand l'avocat eut achevé, « Eh bien » demanda-t-il. « Avant tout, répondit maître Folga, je voudrais votre impression. Admettez-vous les explications de monsieur de Boiscourant ? » ?»« Pourquoi non ? J'en ai, par ma foi, vu bien d'autres. » « Alors vous pensez que, malgré tant de charges qui l'accablent, il faut croire en son innocence ?»« Permettez, je ne pense rien. Diable, il faut étudier une affaire avant d'émettre son opinion. » Il sourit et regardant le jeune avocat, « Mais voilà bien des préambules, fit-il. Qu'attendez-vous donc de moi ? Votre aide pour faire jaillir la vérité. » L'homme de la préfecture, assurément, s'attendait à quelques propositions de ce genre. Après une minute de réflexion, regardant fixement maître Folga, « Si je vous ai bien compris, reprit-il, vous voudriez procéder à une contre-instruction au bénéfice de la défense ?»« Précisément. Et à l'insu de l'accusation ?»« Juste. Eh bien, il m'est impossible de vous servir. » Le jeune avocat était trop au courant des affaires pour n'avoir pas prévu une certaine résistance et il s'était préoccupé des moyens de triompher. « Ce n'est pas votre dernier mot, mon cher Goudard, » dit-il. « Pardonnez-moi, je ne m'appartiens pas, j'ai un emploi et des occupations journalières. » « Vous pouvez demander et on ne vous refuserait certainement pas un congé d'un mois. »« C'est vrai, mais il est certain aussi qu'on s'inquiéterait à la préfecture de ce congé. On me surveillerait probablement. Et si l'on venait à découvrir que je me mêle de faire de la police pour le compte des particuliers, on me laverait la tête solidement et on se priverait de mes services. »« Oh !»« Il n'y a pas de « oh !» On ferait ce que je vous dis et on aurait raison. » « Car enfin, où irions-nous et que deviendraient la sécurité et la liberté individuelle si le premier venu avait le droit d'embaucher les agents de la préfecture et de les employer à sa fantaisie ? Et que deviendrais-je si je perdais ma place ?» La famille de M. de Boiscoran est riche et témoignerait magnifiquement sa reconnaissance à l'homme qui le sauverait. « Et si je ne le sauvais pas ? Et si, au lieu de réussir à démontrer son innocence, je ne parvenais qu'à recueillir des preuves nouvelles de sa culpabilité ? » L'objection était si forte que Maître Folga n'essaya même pas de la discuter. « Je pourrais, dit-il, vous remettre comme entrée de jeu une certaine somme qui vous resterait acquise quel que fût le résultat. » « Quelle somme ? Une centaine de louis ? Certes, 100 louis ne sont pas à dédaigner, mais qu'en ferais-je si j'étais mise à pied ? Je n'ai pas à penser qu'à moi. J'ai une femme et un enfant, et pour toute fortune, cette bicoque qui n'est même pas finie de payer. Ma femme, qui est orpheline, n'avait en dot que son état de repriseuse de dentelles et de cachemire. Ma place n'est pas le Pérou, mais avec les gratifications extraordinaires, elle me vaut, bon an mal an, 7 ou 8 000 francs, sur lesquels j'en économise 2 ou 3. » D'un geste amical, le jeune avocat l'arrêta. « Si je vous offrais 10 000 francs ?»« Une année d'appointement. »« Si je vous en offrais 15 000 ?» Goudard ne répondit pas, mais son œil brilla. « C'est une affaire intéressante que celle de M. de Boiscoran, » poursuivit Maître Folga, « et telle qu'il ne s'en présente guère. L'homme qui parviendrait à démontrer l'inanité de l'accusation grandirait singulièrement sa réputation. » Se ferait-il aussi des amis au parquet ? J'avoue que je ne le pense pas. L'homme de la police secouait la tête. Eh bien, moi, dit-il, j'avoue que ce n'est ni pour la gloire ni pour l'amour de l'art que je travaille. Oh, je sais bien que la vanité est le grand mobile de quelques-uns de mes confrères. J'ai connu le père Tabaret, je connais le coq. Je suis plus positif. Mon métier ne m'a jamais plu. Et si je continue à l'exercer, c'est faute d'argent pour en entreprendre un autre. Il désespère ma femme, d'ailleurs, qui ne vit pas tant que je suis dehors et qui tremble toujours qu'on ne me rapporte un beau matin avec un couteau planté entre les épaules. » Sans cesser d'écouter, Maître Folga avait tiré de sa poche et posé sur la table un portefeuille fort gonflé. « Avec 15 000 francs, prononça-t-il, on peut entreprendre quelque chose. » « C'est vrai. Il y a à vendre, touchant mon jardin, un terrain qui m'irait comme un gant. Le commerce des fleurs apporte gros à Paris et plairait joliment à ma femme. On peut gagner beaucoup avec les fruits. » L'avocat comprenait qu'il tenait son homme. « Ajoutez, mon cher Goudard, insista-t-il, qu'en cas de succès, ces 15 000 francs ne seraient qu'un à-compte. Peut-être les doublerait-on. Monsieur de Boiscoran est le plus généreux des hommes et ce lui serait une joie que de récompenser royalement l'homme qu'il aurait sauvé. » Il ouvrait son portefeuille tout en parlant et il en tirait 15 billets de 1 000 francs qu'il étalait sur la table. « À tout autre qu'à vous, continua-t-il, j'hésiterais à remettre d'avance une somme aussi forte. Un autre, l'argent reçu, ne s'occuperait peut-être plus de mon affaire. Mais je sais votre probité. « Et si, en échange de mes billets, vous me donnez votre parole, je serai tranquille. Voyons, est-ce dit ?» L'émotion du policier était grande, car si maître qu'il fût de ses impressions, il avait légèrement pâli. Hésitant, il maniait les billets de banque d'une main frémissante, jusqu'à ce que tout à coup, « Attendez-moi 2 minutes, dit-il. » Et se levant brusquement, il courut vers la maison. Va-t-il consulter sa femme ? Se demandait maître Folga. Il y allait positivement, car le moment d'après, ils apparurent au bout de l'allée, discutant avec une certaine animation. D'ailleurs, la discussion dura peu. Revenant à la tonnelle, « C'est entendu, déclara Goudard, je suis votre homme. » Joyeusement, l'avocat lui serra la main. « Merci, s'écria-t-il, car, aidé par vous, je réponds presque du succès. Malheureusement, le temps presse. Quand nous mettons-nous à l'œuvre ?»« À l'instant. Permettez-moi de changer de costume et je suis à vous. Il faudra que vous me donniez les clés de la maison de la rue des Vignes. » »« Je les ai dans ma poche. » En ce cas, nous allons y aller immédiatement, car il me faut avant tout reconnaître le terrain. Et vous allez voir si je suis long à ma toilette. » Moins d'un quart d'heure après, effectivement, il reparaissait, vêtu d'une longue redingote noire et gantée, présentant le type achevé de ses dignes boutiquiers retirés après fortune faite qu'on rencontre dans la banlieue de Paris, promenant au soleil l'ennui de leur oisiveté et l'incurable regret de leur boutique. « Partons, » dit-il à l'avocat. Et après avoir salué Madame Goudard, qui les accompagna de son plus radieux sourire, ils montèrent en voiture en criant au cocher « Rue des Vignes, 23 ». C'est une singulière rue que cette rue des Vignes, qui ne mène nulle part, peu connue et si peu fréquentée que l'herbe y pousse dru. Très longue, elle affecte la forme d'un vaste demi-cercle dont la rue de Boulainvilliers l'accorde. Montueuse, tortueuse, raboteuse, à peine pavée, elle ressemble bien plus à une ruelle de village qu'à une des voies de Paris. Point de boutique, à peine quelques maisons, mais de droite et de gauche, d'interminables murs de jardin, au-dessus desquels s'élèvent de grands arbres. « Ah, l'endroit est bien choisi pour de mystérieux rendez-vous, » grommelait Goudard. « Trop bien choisi, même, car nous n'y trouverons pas de renseignements. » La voiture s'arrêta devant une petite porte percée dans un vieux mur dont les nombreuses réparations trahissaient les ravages des deux sièges. « Nous voilà au 23, bourgeois, » dit le cocher, « mais je ne vois pas de maison. » On ne la voyait pas de la rue, mais étant entré, maître Folga et Goudard l'aperçurent, s'élevant au milieu d'un immense jardin, simple et coquette, avec son double perron, son toit d'ardoise et ses persiennes fraîchement repeintes. « Mon Dieu !» s'écria l'homme de la préfecture, « qu'un jardinier serait bien ici !» Et maître Folga devina à son accent de telles convoitises que tout aussitôt « Si nous sauvons monsieur de Boiscourant, dit-il, je suis bien sûr qu'il ne gardera pas cette habitation. »« Visitons !» dit l'agent d'un ton qui révélait une envie immense de réussir. Malheureusement, Jacques de Boiscourant avait dit vrai. Meubles, tapis, tentures, tout était neuf, et c'est inutilement que Goudard et maître Folga explorèrent les quatre pièces du rez-de-chaussée et les quatre pièces de l'étage supérieur, le sous-sol où était la cuisine, et enfin les greniers. « Nous ne recueillerons pas une indice dans cette maison, » déclara l'homme de la préfecture. « Pour l'acquis de ma conscience, j'y viendrai passer un après-midi, mais aujourd'hui, nous avons mieux à faire. Voyons les gens des environs. » Les habitants ne sont pas nombreux rue des Vignes. Un chef d'institution et un nourrisseur, un serrurier en bâtiment et un loueur de voitures, 5 ou 6 propriétaires et l'inévitable marchand de vin traiteur constituent toute la population. « Notre tournée sera bientôt faite, » dit l'homme de police, après avoir ordonné au cocher d'aller l'attendre au bout de la rue. Ni le chef d'institution ni ses employés ne savaient rien. Le nourrisseur avait ouï dire que la maison numéro 23 appartenait à un Anglais, mais il ne l'avait jamais aperçue et ignorait même son nom. Le serrurier, lui, savait que cet Anglais s'appelait Francis Burnett. Il avait fait pour lui divers travaux dont il avait été fort bien payé et avait eu par conséquent occasion de le voir, mais il y avait si longtemps de ça qu'il se déclarait incapable de le reconnaître. « Nous jouons de malheur, » disait maître Folga après cette troisième visite. Plus fidèle était la mémoire du loueur de voiture. Il connaissait fort bien, affirma-t-il, l'anglais du numéro 23 l'ayant conduit 2 ou 3 fois, et le signalement qu'il en donna était exactement celui de Jacques de Boiscourant. Il se rappelait encore qu'un soir, qu'il faisait un temps affreux, Sir Burnett était venu de sa personne lui demander une voiture. C'était pour une dame qui y était montée seule et qui s'était fait conduire place de la Madeleine. Mais la nuit était sombre, la dame portait un voile épais, il n'avait pas distingué ses traits et tout ce qu'il pouvait dire, c'est qu'elle lui avait paru d'une taille au-dessus de la moyenne. « C'est toujours cela, » disait Goudard en quittant le loueur. « Mais le mieux renseigné doit être le marchand de vin. Si j'étais seul, je déjeunerais chez lui. »« J'y déjeunerai volontiers avec vous, » déclara Maître Folga. Ainsi fut-il fait, et ce fut sagement fait. Le marchand de vin ne savait pas grand-chose, mais son garçon, qui habitait le quartier depuis 5 ou 6 ans, connaissait de vue Sir Burnett et avait surtout bien connu sa domestique anglaise, Sir Kiwood. Et, tout en servant, il donnait quantité de détails. Ce qui, racontait-il, était une grande diablesse de plus de 5 pieds, rousse à mettre le feu à ses bonnets, et qui avait les grâces d'un cuirassier habillé en femme. Il avait souvent et longuement causé avec elle quand elle venait acheter une portion du plat du jour pour son dîner, ou acheter de la bière qu'elle aimait beaucoup. Elle se déclarait fort satisfaite de sa place, disant qu'elle y était bien payée et qu'elle n'avait, autant dire, rien à faire, puisqu'elle était seule à la maison les 3/4 de l'année. Par elle, le garçon marchand de vin avait appris que M. Burnett devait avoir un autre domicile et qu'il ne venait rue des Vignes que pour recevoir une dame. Même cette dame intriguait beaucoup ce qui. Jamais, prétendait-elle, jamais elle n'avait pu seulement lui voir le bout du nez tant elle savait bien prendre ses précautions. Mais elle se promettait bien qu'elle finirait par la dévisager. Et comptait qu'elle y aura réussi tôt ou tard, souffla Goudard à l'oreille de Maître Folga. Enfin, par ce garçon marchand de vin, on sut encore que ce qui avait été très lié avec la servante d'un vieux rentier célibataire qui demeurait au numéro 27. Il faut y aller, décida Goudard. Précisément, le maître de cette fille venait de sortir et elle était seule au logis. Un peu effrayée d'abord de la visite et des questions de ces deux inconnus, elle ne tarda pas à se rassurer au patelinage de l'homme de la préfecture, et comme elle avait la langue des mieux pendus, elle confirma pleinement et développa toutes les assertions du garçon marchand de vin. Ce qu'est, dont elle avait eu toute la confiance, ne s'était pas gêné pour lui dire que M. Burnett n'était pas anglais et ne s'appelait pas Burnett, et que s'il venait se cacher ainsi rue des Vignes sous un faux nom, c'était pour y recevoir sa bonne amie, qui était une femme du grand monde, admirablement belle. Enfin, au moment de la guerre, quand elle avait quitté Paris, Suckey avait annoncé qu'elle se rendait en Angleterre dans sa famille. En sortant de la maison du vieux rentier, « C'est bien peu ce que nous venons de recueillir, » disait Goudard au jeune avocat, « et des jurés ne s'en contenteraient pas. » Mais c'est assez pour confirmer, au moins en partie, le récit de M. Jacques de Boiscourant. Il nous est prouvé désormais qu'il recevait une femme qui avait le plus grand intérêt à se cacher. Était-ce, comme il l'affirme, Madame de Claudieuse ? C'est ce que Sucky nous apprendrait, car certainement elle l'a vu. Donc il faut retrouver Sucky. Et maintenant, remontons en voiture et rendons-nous à la préfecture. Vous m'attendrez au café du Palais de Justice. Je n'en ai pas pour plus d'un quart d'heure. » Il en eut pour une grande heure et demie, et Maître Folga commençait presque à s'inquiéter, quand enfin il reparut, l'air fort satisfait. « Garçon, un boc » commanda-t-il. Et s'asseyant en face de l'avocat, « J'ai été longtemps, dit-il, mais je n'ai pas perdu mon temps. D'abord, j'ai obtenu un congé d'un mois. » J'ai ensuite mis la main précisément sur le gaillard dont je rêvais pour expédier à la recherche de Sir Burnett et de Suckey. C'est un brave garçon nommé Barousse, fin comme l'ambre et qui parle anglais comme s'il était né à Londres. Il demande, ses frais de voyage payés, 25 francs par jour, plus 1500 francs de gratification s'il réussit. J'ai rendez-vous avec lui à 6 heures pour lui rendre une réponse définitive. Si ces conditions vous conviennent, ce soir même, bien stylé par moi, il sera en route pour l'Angleterre. » Pour toute réponse, Maître Folga sortit un billet de 1000 francs en disant « Voilà pour les premiers frais. » Goudard avait achevé son boc. « Cela étant, maître, reprit-il, je vous quitte. Je vais aller rôder rue de la ferme des Mathurins, autour de la maison de M. de Tassard-de-Bruc, le père de Mme de Claudieuse. Peut-être y récolterai-je quelque chose. Demain, je passerai la journée à étudier à la loupe la maison de la rue des Vignes et à interroger les fournisseurs dont vous m'avez donné la liste. Après-demain, j'aurai probablement fini ici. Donc, dans 4 ou 5 jours, vous verrez arriver à Sauveterre un individu qui sera moi. Et se levant, « Car il faut que je sauve M. de Boiscoran, ajouta-t-il. Je le veux, il le faut. Il a une trop jolie maison. Allons, au revoir à Sauveterre. » 4 heures sonnaient. Sur les talons de Gouda, Maître Folga quitta le café et descendit les quais pour gagner la rue de l'université. Il avait hâte de revoir M. et Mme de Boiscoran. « Madame la marquise se repose, lui répondit le valet auquel il s'adressa. Mais monsieur le marquis est dans son cabinet. » C'est là, en effet, que le jeune avocat le trouva, encore tout bouleversé de l'épouvantable scène du matin. Il n'avait rien dit à sa femme qu'il ne pensât, malheureusement. Mais il était désespéré de l'avoir dit en de telles circonstances. Et cependant, il en éprouvait un grand soulagement, car, en vérité, il se sentait en partie délivré des horribles doutes dont il avait si longtemps gardé le secret. Lorsqu'il vit entrer Maître Folga, « Eh bien » interrogea-t-il d'une voix altérée. Minutieusement, le jeune avocat répéta le récit de la marquise. Mais il dit, en outre, ce qu'il n'avait pas pu dire, puisqu'elle l'ignorait, les projets désespérés de Jacques. À cette révélation, M. de Boiscoran eut un geste désolé. « Malheureux » s'écria-t-il, « et moi qui l'accusais. Il songeait à se tuer. » « Et nous avons eu bien de la peine, Maître Magloire et moi, » ajouta Maître Folga, « à triompher de sa résolution, bien de la peine à lui faire comprendre que jamais, quoi qu'il arrive, un innocent n'a le droit de recourir au suicide. » Une grosse larme roulait le long des joues du vieux gentilhomme. « Ah, j'ai été cruellement injuste, » murmura-t-il, « pauvre malheureux enfant. » Puis, tout haut, « Mais je le verrai, » reprit-il, « je suis résolu à accompagner Madame de Boiscoran à Sauveterre. Quand partez-vous ? » ?»« Rien ne me retient plus à Paris, tout ce que j'avais à y faire est fait, et je pourrai partir ce soir même. Mais je suis vraiment trop fatigué. Je compte prendre demain matin le train de 10h45. » »« Cela étant, nous ferons le voyage ensemble. C'est entendu, n'est-ce pas ? Demain à 10h à la gare d'Orléans. » Nous serons à Sauveterre à minuit.